I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant! Vous avez rêvé de pénalités, de dépassement des limites de la piste? Oh, quelque chose me dit que vous avez regardé le Grand Prix d'Autriche. Stéphane, est-ce que tu veux nous parler de tes rêves de la nuit dernière?
Des cauchemars plutôt.
Oui, si tu veux, du moment qu'on peut en parler devant nos abonnés. Un Grand Prix d'Autriche remporté par Max Verstappen, mais dont les vedettes ont été les commissaires sportifs débordés, assaillis de plus de 1200 signalements d'incidents. On va parler justement du déroulement de ce Grand Prix d'Autriche. On va évoquer aussi Ferrari avec du bon et le deuxième podium de la Scuderia cette saison. Et puis du nouveau, Carlos Sainz a été intronisé officiellement pilote numéro 2 à la Scuderia. Ce Grand Prix d'Autriche qui a vu repartir des responsables d'équipe déboussolés. Mercedes, Alpine ont du souci à se faire avant Silverstone. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On ne peut pas débuter ce podcast sans avoir une pensée pour le jeune Dylan Ovantoff, le Néerlandais, qui a succombé à ses blessures. C'était lors d'une course de Formule Renault du championnat européen de Formule de F3 à Spa, samedi, dans des conditions très très difficiles. Un engrenage comme on en connaît, une percussion terrible qui a vu donc Dylan Ovantoff perdre la vie. On va penser à lui pendant ce podcast.
Et à tous les pilotes qui ont payé le prix fort de leur passion. Et malheureusement, on sait que le circuit parfait n'existe pas. La FIA va se pencher sur les circonstances, va en tirer des conclusions pour renforcer la sécurité. Et on espère que les circuits seront plus sécures à l'avenir.
À l'avenir, oui. Voilà, mais bon, il faut penser à lui et continuer de travailler pour améliorer la sécurité. Stéphane, là, c'est pas simple d'enchaîner avec ça. On voulait quand même commencer avant d'évoquer ce qui s'est passé avec toutes les pénalités, tout ça, à revenir quand même sur ce Grand Prix, ce week-end en Autriche, absolument phénoménal pour Max Verstappen, qui a fait le sans-faute. Il a tout remporté, la pole, la course sprint, évidemment le Grand Prix, le meilleur tour en course. Il n'a rien laissé à ses adversaires.
Oui, carton plein, 26 points plus 8 points, c'était le maximum possible. Alors je casse l'ambiance tout de suite. Tous les pilotes qui ont remporté 5 courses de suite dans une même année ont tous été champions du monde. Donc comme ça, on peut officialiser le titre, le troisième titre de Max Verstappen qui est mérité. Mais je dirais que Max Verstappen, il avait fait quelque chose, il avait fait le plus important avant. Parce qu'il avait demandé à ses fans de l'Orange Army de moins boire. Et les gens se sont beaucoup plus tenus. On n'a pas assisté au débordement qui avait eu lieu l'année dernière, qui avait rythmé le Grand Prix et qui nous mettait sur une voie malsaine, franchement, en termes de comportement de masse des supporters. C'était assez inquiétant. Là, il n'y a rien eu à signaler. Heureusement, c'est très bien comme ça. Ça veut dire que maintenant, il parle en champion et que sa voix porte. C'est important parce qu'il est aussi, je dirais, un petit peu assez libre dans ses points de vue et même un petit peu transgressif dans son comportement sur la piste. Mais là, il avait vu clairement un danger. Le Grand Prix d'Autriche s'est très, très bien déroulé. Tu l'as dit, il a tout dominé quasiment. Il y a juste quelques tours, une dizaine de tours qui lui ont échappé en tête de la course. C'est pour ça qu'il n'a pas fait un nouveau
Oui, c'est une sorte de fin de série.
Total, hein. Tout à fait. Et genre, on retiendra juste une chose, c'est que c'est vraiment lui le patron, parce qu'à la fin, il a réclamé de vouloir passer des pneus neufs pour s'attaquer au meilleur tour en course, pour avoir un septième hat-trick, donc pole, victoire et meilleur tour en course.
On lui a dit non.
Et Helmut Marko a dit, bah, finalement, on lui a dit si. avant que Max ne s'agite, qu'il s'énerve, donc nous voulions le rendre heureux. Autrement, il aurait fait le meilleur tour avec des pneus usés, ce qui aurait été un risque supplémentaire. Et donc, il a dit, bah, il était super facile, c'est vrai, il avait de la marge, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé faire. Mais il n'avait que 4 secondes de marge, le bougre, ça c'est quand même assez incroyable. Et il a tenté le coup, c'est-à-dire qu'il remet tout sur la table. Alors, on est comme au casino avec lui, c'est quand même assez excitant. Et je retiens aussi qu'il a peur de rien lors du shootout, c'est-à-dire la qualif du sprint. Au début de la deuxième partie, je crois, bah, en fait, il avait son moteur éteint en bout de pitlane parce qu'il s'était présenté trop tôt. Et bah, il l'a rallumé comme ça, alors qu'il aurait pu avoir un problème, ne pas le rallumer, avoir du retard pour se lancer dans cette SQ2. Ça veut dire l'énorme confiance qu'il a, quoi. Il n'y a rien qui peut l'arrêter.
Exactement. Alors évidemment, la vedette de ce Grand Prix d'Autriche, c'est le concept de pénalité pour dépassement des limites de la piste. Les chiffres donnent le tournis. Hein. 1200 incidents signalés, 145 secondes de pénalité attribuées, 5 heures de visionnage et de calcul pour publier le résultat définitif. Ce Grand Prix d'Autriche 2023 qui a été en fait une longue litanie d'annonces de pénalités. Et le pire, c'est que la durée de l'épreuve n'a donc pas suffi au commissaire. Hein. Après l'arrivée à Aston Martin, porte réclamation parce qu'on constate qu'il y a des dizaines de signalements de dépassement de piste qui n'ont pas été analysés par la direction de course. Donc, Aston Martin fait appel. L'appel est jugé recevable par la FIA et il faudra donc, je le disais, 5 heures pour tout passer au crible. Bilan, 83 tours annulés en plus, 12 pénalités supplémentaires. À la finale, Stéphane, il y a quand même un chiffre moi, qui parle plus que les autres, c'est que sur la ligne d'arrivée, sur les 19 voitures qui sont allées au bout de ce Grand Prix parce qu'il y a eu un abandon, seules 5 autos ont franchi la ligne d'arrivée à leur place, finalement. Toutes les autres ont soit progressé, soit rétrogradé à cause des pénalités. Quand on sait le souci que se donne la Formule 1 pour être plus lisible, plus accessible, là, on est exactement à l'inverse de tout ce qu'on veut faire dans cette discipline.
Oui, puis c'est assez catastrophique parce qu'effectivement, Red Bull écrase le championnat, 10 victoires de suite. Maintenant, on ne sait plus comment faire, comment retourner la situation dans tous les sens pour dire où est-ce qu'on peut trouver du positif là-dedans. À Spielberg, c'était même le championnat du monde de la délation. Les pilotes étaient vraiment occupés à dénoncer le pilote qu'ils avaient devant pour dire « Allô, patron, il vient de sortir encore, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'ils l'ont bien vu à la FIA ?» Enfin, il y avait quelque chose un petit peu désagréable là-dedans. Alors, le premier qui a agi, sans surprise, c'est Lando Norris parce que vraiment, il est le premier sur là-dessus et tout le temps.
C'est le premier dont on nous a fait entendre le message radio. Il faut bien dire qu'on n'entend pas tous les échanges radio.
Il est assez coutumier du fait quand même, d'habitude. Et bah là, ça paye en plus parce qu'il récupère la quatrième place sur un déclassement, sur pénalité. Mais effectivement, ça avait commencé l'année dernière.
C'est ce que j'allais dire, on n'a pas retenu les leçons finalement de ce qui s'est passé en 2022 sur ce circuit déjà à Spielberg.
Tout à fait, l'année dernière, il y avait eu 43 dépassements de limites en course. Et cette année, on en a eu 95 le dimanche. Donc c'est une augmentation de 120%. Donc ce qui s'était passé l'année dernière n'a servi à rien, c'est quand même une étrangeté. Pour rappel, sur ces questions de limites de piste dépassées, il y en a eu 47, donc le premier jour vendredi, avec une séance de qualif. Il y en a eu 20 samedi avec la qualif sprint plus le sprint.
Ils ont été un peu 95. Plus indulgents parce qu'il a plu samedi.
Tout à fait. Bah, là, tu vas un petit peu moins à la limite. C'est clair, tu cherches moins la limite, tu cherches surtout à les trajectoires qui t'offrent du grip. Donc, c'est un petit peu différent, même si c'est un petit peu à l'extérieur. Ils ont été très prudents. Donc, oui, c'est une explosion complètement des chiffres.
Et le dimanche,
chiffres.
On en a eu combien ?
95. Voilà. Donc, ça fait 162 en tout pour les 3 jours. Donc,
belle moyenne.
Là, c'est caractérisé. Alors, pourquoi tout ça finalement, Gilles ? On nous a cité l'exemple en fait d'autres circuits qui partageaient aussi des événements dans le championnat du monde de Formule 1 et dans le championnat du monde de MotoGP, c'est vrai. Je rappelle, il y en a 6, 5 en plus de Spielberg, qui sont Austin, Montmelo, Silverstone, Imola, qui sera encore au calendrier l'an prochain, et Losail, et qui posent beaucoup moins de problèmes. Donc là, où est le souci ?
Alors, une des explications, et on l'a entendu notamment chez nos confrères de Canal+, c'est qu'effectivement, pour homologuer les circuits au grade 1 en MotoGP, il faut qu'il y ait au minimum 2 mètres de dégagement asphalté au-delà de la piste, ce qui peut se comprendre pour des éléments de sécurité en ce qui concerne la moto. Là, dans les virages 10 et 11, qui ont concentré quand même l'énorme majorité des dépassements de piste, on n'a pas 2 mètres de dégagement asphalté, on en a 150. Enfin, ouais. En fait, tout le dégagement est asphalté.
Mais surtout que 2 mètres, c'est pile
la largeur de la voiture.
Voilà. Donc, on en fait plus, c'est inutile. Il n'y a même pas une zone dissuasive au-delà de ces 2 mètres. Donc, c'est pour ça que les gars, ils vont allègrement. Et ils ont raison. Pour faire un chrono, pour essayer de sortir de la Q2 pour passer en Q3, bon, bah, tu tentes ta chance.
Pour essayer de grappiller quelques dixièmes pour revenir sur un adversaire qui est devant vous, c'est pareil.
C'est exactement. Donc, on comprend tout ça. Et même, ce qui est assez incroyable, finalement, c'est que dans les équipes, on s'était fait à cette idée de prendre des pénalités. À un moment d'ailleurs, Toto Wolff l'a dit à Hamilton, de toute façon, tous ceux qui sont devant toi vont prendre des pénalités. Donc tout ça, c'était provisionné. Tout le monde aurait ses 5 secondes de pénalité et puis on en resterait là. Il y a d'autres gens comme Pierre Gasly qui ont dit, bon, bah, de toute façon, ça n'a rien changé au résultat avant son déclassement. Mais oui. Là aussi, c'est pareil, c'est que quand tu sais que tu prends 5 secondes de pénalité, bah, tu les gères, tu ajustes ta stratégie en fonction de ça. Et puis... entre guillemets, tu l'effaces. Alors là, sauf que bon, c'est au stand quand même que tu le fais. Donc je trouve que c'est mieux. Et ils ont protesté effectivement sur ces délais de jugement.
Quand il y en a 1200 à analyser, ou alors il faudrait avoir 150 commissaires sportifs pour pouvoir faire face. Mais là, ça devient totalement illisible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il va falloir modifier quelque chose. Parce que là, mine de rien, entre la Formule 1 et le circuit de Spielberg, on a prolongé le contrat jusqu'en 2030. Donc il va falloir trouver une solution. C'est pas possible que tous les ans, c'est un peu un marronnier, on en avait déjà parlé l'année dernière, il faut modifier le circuit maintenant.
Alors, là, on est arrivé peut-être un petit peu au bout de ce que souhaitaient les équipes. Je m'explique. Pour les équipes, c'est une catastrophe qu'un pilote paye une petite erreur en restant scotché dans le gravier. C'est une voiture que tu perds sur une erreur complètement anodine. Et c'est pour ça qu'on a mis de plus en plus de dégagement bitumé. Quand on fait une erreur aussi, on part au loin... on casse pas la voiture sur des grosses bordures, donc c'est pour ça aussi que les bordures sont assez lisses, sont assez plates, et on est resté un petit peu là-dessus, sachant que ça mettait moins à mal les voitures, donc ça augmentait le taux d'arrivée. Alors Gilles, je note que après 9 Grands Prix en 2023, on a seulement 15 abandons, c'est un total particulièrement faible, on est vraiment dans une moyenne basse. Alors que, par exemple, en 2018, j'ai juste remonté les 5 dernières années, on en avait 37. Ensuite, on en a eu 20, puis 33 en 2020, 16 à nouveau en 2021 et 31 en 2022. Et les équipes, c'est vrai, ne veulent pas laisser en cours de route des voitures en bord de piste. Elles veulent avoir les deux voitures à l'arrivée pour maximiser les potentialités de marquer des points. On est vraiment là-dedans. Et puis, pour l'image aussi, de toute façon, une voiture qui abandonne sur un accident, etc., c'est mauvais. Et c'est pour ça qu'on a cédé à cette tentation de mettre du bitume.
Ce que j'allais dire, c'est quand même l'essentiel de la course auto. C'est pas faire d'erreur. Ça veut dire qu'il faut à un moment sanctionner les erreurs des pilotes.
Oui, c'est un circuit qui n'est pas punitif. On est tombé dans quelque chose de caricatural à Spielberg de ce point de vue-là. Je pense qu'effectivement, il faut changer des choses. Et là, qu'est-ce que propose Wolff ? Il a dit qu'il faut revenir aux saucisses, là. Tu sais, les grosses saucisses rouges. Là.
Alors,
il a acté en fait que les équipes et les pilotes ne devront pas se plaindre quand on détruit des voitures, des fonds plats, etc., en passant sur ces bordures arrondies qui sont assez hautes et qui cassent tout.
Alors, le problème de ces gros vibreurs orange là, qu'on appelle des saucisses, c'est que si la voiture arrive vite,
elle décolle. Et là, il y a un vrai problème de sécurité. Je ne pense pas que ça soit
oui, puis
une solution
envisageable.
Oui, puis on casse
tout, ça coûte cher, ce n'est pas dans l'égide de réduction
non, mais
des coûts.
Au-delà de ça, au-delà du prix, là, c'est surtout que c'est dangereux. Si la voiture décolle, derrière, le pilote, il ne peut plus du tout intervenir. Et y a pas du tout, c'est pas du tout un système de sécurité.
Oui.
Il faut trouver quelque chose. Dis-moi, vas-y. Continue.
Non, mais j'allais noter simplement que Helmut Marko, qui s'occupe beaucoup du Red Bull Ring, a suggéré autrement de mettre des bacs à gravier, tout simplement.
Voilà, et simplement, c'est ça. Pour homologuer pour les Grands Prix de moto, il faut 2 mètres d'asphalte. Bah, mettons 2 mètres d'asphalte, ok, comme ça. Parce qu'il faut bien comprendre que les Grands Prix, c'est une source de revenus importante de pouvoir faire et la MotoGP et la Formule 1. Ça, ça peut se comprendre tout à fait. Mais réduisons effectivement à la portion obligatoire des 2 mètres de bitume en dehors de la piste. Et puis, on remet un coup de peinture, c'est-à-dire qu'au lieu, d'avoir la ligne blanche devant le vibreur, on la met derrière. C'est-à-dire que si tu inclus le vibreur dans la piste, eh ben, vu qu'il y a 2 mètres d'asphalte derrière, ça veut dire que si le pilote va au-delà de ça, il a 2 roues dans le gravier, ça va suffire. Il n'y a pas besoin d'un commissaire pour dire tu vas perdre du temps, puisque quand tu as 2 roues dans le gravier, ta voiture, elle tourne moins bien. Hein. Sinon, les pilotes, ils prendraient tous les virages dans le gravier. Et c'est assez simple, ça demande juste finalement à modifier les lignes blanches entre le Grand Prix MotoGP et le Grand Prix de Formule 1. Ça, on va pouvoir y arriver, mais il faut absolument arrêter. Enfin, ça devient ce Grand Prix, mais... ce circuit qui est quand même assez spectaculaire, il en devient caricatural.
Il y a souvent une bordure en sortie de virage, quand même. On a aussi configuré les circuits comme ça, je ne sais pas pourquoi exactement. Mais si on ne fait pas ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme le proposait aussi donc Toto Wolff, c'est mettre des saucisses ou alors rehausser, comme disait Helmut Marko, les bordures pour qu'elles soient un petit peu plus dissuasives sans tout casser. Et là, on obtient vraiment une limite. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait un double circuit, c'est-à-dire qu'il faudrait 2 configurations. Et il faudrait remettre des bordures hautes pour la Formule 1, ce qui voudrait dire homologuer à nouveau tous les ans le circuit, parce qu'il passerait sans arrêt de la version MotoGP à la version monoplace. Ça serait un petit peu compliqué, ça serait faisable, ça ne coûterait pas énormément d'argent, mais je pense que la solution se situe vers ça. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas non plus installé une sorte de mouchard sur la longueur de la ligne, qui serait une limite, je dirais, à ne pas dépasser, avec un capteur qui est mis au centre de la voiture et qu'on calcule que le capteur a dépassé les limites imparties. Alors, je ne sais pas si ça correspondrait à une limite physique sur la piste, mais les pilotes en prendraient note assez vite. Et puis là, l'avantage, l'énorme avantage, c'est qu'on aurait le verdict instantanément.
C'est ça.
Est-ce qu'il a dépassé ou pas? Et puis, on met simplement un panneau lumineux à la sortie du virage pour indiquer voiture numéro tant, on ou off. Et puis là, le pilote en serait informé en direct des jokers qui lui restent, parce que c'était la question aussi, c'était la grogne des pilotes pour ça, c'est qu'on n'est pas au courant de ce qu'on risque en temps réel et si on doit attaquer ou comment.
En gros, ils prennent des cartons jaunes, mais ils n'en sont pas forcément informés.
Ouais.
Bref, ça a complètement pollué ce Grand Prix et il va falloir vraiment trouver une solution à toutes ces histoires de pénalités. Les chiffres sont complètement fous. Alors, pendant ce Grand Prix, on a quand même eu du côté de chez Ferrari, pour Charles Leclerc, une éclaircie et un éclaircissement. On va jouer un petit peu sur les mots dans cette partie consacrée à Ferrari. Ferrari qui avait ses 2 autos, je parle pour le Grand Prix, pas pour la course de samedi, ses 2 autos en 2e et 3e position sur la grille de départ, qui pouvaient nourrir quand même de belles ambitions pour le Grand Prix. Et ça s'est traduit quand même par le 2e meilleur résultat cette saison pour la Scuderia, avec 32 points empochés. Ils en avaient pris 36 en Azerbaïdjan, où il y avait déjà eu une course sprint le samedi. Donc 32 points marqués par Ferrari contre 11 à Mercedes et 21 à Aston Martin. Ça, c'est l'éclaircie pour la Scuderia, parce que on a vu quand même des voitures qui avaient un bon rythme. C'est le 2e podium pour Charles Leclerc cette saison.
pour les statistiques, c'est le 800e podium dans l'histoire de la Scuderia Ferrari en Formule 1. Et il y a notamment eu ce moment de grâce pour Charles Leclerc, ce tour de qualification en Q3 vendredi, donc, puisque la qualification pour le Grand Prix avait lieu vendredi, où il termine, je crois que c'est à 48 millième de Verstappen. Bah, c'était magique. Ce tour embarqué, là, il est fabuleux.
Ouais, c'est je dirais un tour spécial Charles Leclerc. C'est génial parce que lui, il n'a pas une Red Bull. Loin de là, j'aimerais savoir ce qu'il serait capable de faire dans une Red Bull aujourd'hui. Hein. Verstappen aura peut-être des surprises.
Alors, ça serait intéressant, oui.
Moi, ce que je retiens en termes de comportement et de qualité de la voiture, c'est le propos de Sergio Pérez à l'arrivée qui dit « les Ferrari étaient vraiment rapides dans les virages lents ». Et ça, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup changé dans l'ADN de la voiture par rapport à ce qu'on constatait il y a 2 ans, 3 ans, où on misait tout sur la puissance moteur, tout sur la VMAX, parce qu'il fallait remonter à 2019 et ce fameux moteur qui était plus que dans une zone grise et qui permettait des vitesses de pointe hallucinantes. Et Ferrari vivait là-dessus. Et là, maintenant, on retrouve quand même une voiture qui est plus homogène. Moi, je trouve qu'il manque un peu de perfo, mais qui est plus homogène. Alors, parfois, elle a un petit peu trop détruit rapidement ses pneumatiques depuis le début de la saison. C'est là-dessus qu'il faut aussi travailler, c'est-à-dire récupérer de l'appui, etc. Mais franchement, c'est assez encourageant. Et Leclerc était un petit peu tout seul dans son monde, je dirais, parce qu'il a aussi, je trouve, bien piloté en respectant au maximum les limites de piste. Il a eu 4 dépassements sur l'ensemble des 3 jours contre 13. Pour Sainz. Donc il a été propre, vraiment ce qu'il est arrivé à faire, c'était de façon sécure, avec peut-être une petite marge, alors que Sainz n'en avait pas du tout, hein, clairement. Et c'est là-dessus, franchement, qu'il faut aussi dire chapeau Charles Leclerc.
Et pour l'anecdote, c'est quand même lui qui a mis fin à cette série hein, de tours menée par Max Verstappen, qui durait depuis plus de 3 Grands Prix. Alors, c'est suite à l'arrêt au stand de Max Verstappen, mais il fallait quand même être là pour mettre fin à cette série. Alors, il y a quand même eu un truc, moi, qui m'a un petit peu épaté dans la course de Charles Leclerc, c'est quand son ingénieur lui propose de faire finalement une stratégie avec 3 arrêts. Alors là, la réponse est claire, non. Non, non. Et en conférence de presse après course, Charles Leclerc a expliqué que c'est un scénario qu'il n'avait pas envisagé avant le départ, alors que on imagine quand même que les équipes de pointe, au moins,
discutent de tout.
Voilà, ouais. Et prennent à peu près tous les scénarios envisageables, surtout que le scénario d'un safety car en début de course, normalement, celui-là, il est à peu près pris en compte. Et ben non, là, il n'avait pas été pris en compte. Et on propose donc 3 arrêts au stand. Ça n'avait pas été anticipé. Ça m'inquiète un petit peu, quand même, encore une fois, qu'on soit encore en train de se dire « Tiens, et si on tentait un truc auquel on n'avait pas réfléchi ?» Alors, ça a été un petit peu étonnant.
C'est une preuve d'autorité quand même, parce qu'il a dit « On n'en a pas discuté, donc en fait, on n'ouvre pas la discussion. »
C'est
on ne commence pas à palabrer en direct et en donnant l'impression qu'il y a un flottement.
Bah, donc, c'était les pilotes qui étaient aux commandes ce week-end. Hein. Ouais. En gros, on a bien compris que Max Verstappen voulait des pneus tendres pour faire son record du tour en fin de course. Red Bull a dit « Oh, c'est pas une très très bonne idée. » Puis en gros, ils ont très vite compris que de toute façon, il allait se présenter à l'entrée de la voie des stands et qu'il valait mieux être prêt. Bah, là, c'est pareil. Ouais. Les 3 arrêts, il n'y a pas eu échange de discussion, ouais. Hein, c'était clair et net.
Un autre hic quand même plus sérieux samedi, c'est pendant la qualification de la course sprint, Charles Leclerc a pris 3 places de pénalité encore en gênant Oscar Piastri qui était dans son tour rapide. Et là, la FIA lui a mis 3 places de pénalité parce qu'elle a dit bah, c'était un problème de communication entre l'équipe et le pilote.
Et oui.
Encore un problème de communication chez Ferrari. Et là, c'est pareil, il faut se préparer à viser le titre mondial. Il faut, c'est pas en se réveillant en 2024, en début de saison, qu'on se dit maintenant, il faut tout faire correctement. C'est au niveau opérationnel, dans toutes ces choses-là, il faut maintenant se débarrasser de ces scories parce qu'on n'y arrivera pas autrement.
Ouais, clairement. L'autre très bon point de ce week-end en Autriche, et surtout de ce dimanche hein, d'ailleurs, pour la Scuderia Ferrari, c'est le rythme qu'avait Carlos Sainz pendant ce Grand Prix, qui semblait clairement un ton au-dessus au niveau de la course par rapport à Charles Leclerc, mais qui a été retenu derrière Charles Leclerc en début de course. Alors que
clairement, j'aurais été curieux de voir ce qu'aurait pu faire Carlos Sainz si on lui avait ouvert la porte, j'allais dire plutôt si on lui avait ouvert la porte tout court, pour essayer d'aller titiller Max Verstappen. Je me demande s'il n'aurait pas pu y arriver. Le problème, c'est qu'on lui a dit non, tu restes derrière. Qu'est arrivée ensuite l'intervention de la voiture de sécurité, où là, la Scuderia a choisi de laisser les deux voitures dans la même stratégie, de les faire rentrer toutes les deux, et donc il a perdu 6 ou 7 secondes. En plus, les deux arrêts ont été assez catastrophiques du côté de la Scuderia. C'est l'éclaircissement dont je parlais. Ça veut dire que clairement, chez Ferrari, on considère que Carlos Sainz est le numéro 2, Stéphane.
Oui, il y a des raisons pour ça. Alors, je reviens sur cette décision de dire statu quo. Tout de suite, dès le début de la course, on a vu quand même Carlos Sainz, cette année, faire un peu le beau en début de course, parce qu'il était devant Leclerc et qu'il voulait montrer sa rapidité et qu'il appelait à un moment, même assez vite, à la radio en disant « mes pneus sont fichus, il faut que je rentre ». Donc là, c'est peut-être la voiture de sécurité virtuelle qui l'a sauvé, qui a créé une opportunité et qui a masqué ça. Parce qu'on a fait la même chose, on a pris la même option qu'au Canada. Souviens-toi, Gilles, quand tout le monde était rentré au stand, Fred Vasseur avait décidé de laisser les voitures
en piste,
et en disant « vous ne vous attaquez pas » et le but, c'est de maximiser le potentiel des pneus. Ce qu'ils avaient fait correctement, et ça avait, je ne sais plus quel résultat ça avait donné, mais c'était un bon résultat d'ensemble. Et là-dessus, on était raccord. Et c'est la fin un petit peu des atermoiements. Moi, je trouve ça bien. Et j'y vois une raison essentielle.
4 et 5 au Canada.
Voilà. Donc, c'est le résultat correct vis-à-vis de la concurrence qu'il y avait alors. Il y avait une Red Bull, une Aston Martin et puis une Mercedes qui est quand même pas rien. Tout ça, c'était quand même assez serré. On s'en souvient. Donc, c'était un bon Grand Prix et c'était le bon exemple. Et donc, on s'appuie là-dessus. Et maintenant, on dit non à Sainz pour une raison très précise. C'est que moi, j'ai vu... des propos de Charles Leclerc qui a dit ce week-end, on ne discute pas du nouveau contrat donc à partir de 2024 à la Scuderia, mais on l'évoque un peu comme ça. En tous les cas, une chose est sûre, je suis heureux à la Scuderia Ferrari. Et je crois au projet. Encore globalement, c'est ça. Et pendant ce temps-là, Sainz fait des allers-retours chez Audi, enfin officiellement là pour l'instant chez Sauber. Des discussions qui sont nombreuses. Qui ont été particulièrement vus dans le paddock à Montréal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est clairement tenté par l'option Audi. Et moi, je serais Audi, j'essaierai de l'avoir le plus vite possible parce que ce n'est pas en 2026 qu'il faut commencer à avoir deux gros calibres. Il faut essayer de le recruter assez vite, à la fin de son contrat. Je crois que c'est 2024 et même peut-être avant. Et là, je pense qu'il y a peut-être une hésitation. Et on sent chez Ferrari que Sainz n'est peut-être plus tout à fait dans sa tête juste chez Ferrari jusqu'à la fin de son contrat et qu'il est peut-être tenté par l'aventure Audi. Et là, il y a au moins un flou à ce niveau-là et on dit... Bon, mais c'est clair, on connaît celui qui veut rester, et on sait celui qui est tenté par un départ. On mise sur Leclerc et dès qu'on pourra le refaire, on fera le coup.
Exactement. Alors, c'est intéressant, n'empêche que ce que tu nous dis là avec Audi pour Carlos Sainz. Au niveau du classement des constructeurs, Red Bull largement en tête, hein, quasiment 200 points d'avance par rapport à Mercedes. Derrière, c'est très très serré. Hein. Mercedes donc, on a Aston Martin qui n'est plus qu'à 3 points de Mercedes et Ferrari qui revient à 24 points de Mercedes. Ferrari est à 24 points de la deuxième place au classement des constructeurs. J'ai envie de te dire, compte tenu du début de saison, c'est
exactement
ce qu'ils espéraient.
Oui, et ce qu'il leur faut maintenant encore, c'est de la discipline. C'est tout. Le même esprit qu'en 2021, quand la voiture n'évoluait pas, c'est se concentrer sur les réglages, sur l'exploitation, et puis de la discipline en course. Et là, je vois clairement que Sainz, il ne faut pas l'écouter. Là, il a fait son caliméro à la fin, mais pour autre chose. Mais tu as l'impression que...
Oui, parce qu'en plus, il a été pénalisé lui aussi.
Quand on lui demande de rentrer, en fait, il veut rester en piste. Et inversement, il n'est jamais content de ce qu'on lui propose. C'est quand même assez fort. Hein, et il reste là-dessus, mais n'empêche que... Je le dis, Gilles, à la fin, c'est la Scuderia qui a eu raison parce qu'il a pris une flopée de pénalités qui l'ont fait rétrograder. Il a perdu sa quatrième place. Il tombe à la sixième.
Aurait-il pris ses pénalités s'il avait eu finalement carte blanche et s'il avait pu essayer d'aller chercher Max Verstappen ? Bon, on ne saura jamais au final.
Oui, mais je pense que Leclerc faisait avec ce qu'il pouvait et qu'il était dans un objectif de faire tenir ses pneus. Et Sainz, derrière, en fait, il ne peut pas accepter ça. C'est clair, il doit attaquer pour montrer, suggérer justement qu'il est le plus rapide. Ça me semble artificiel.
On va passer maintenant au destin commun, on a le sentiment, de Mercedes et d'Alpine pendant ce Grand Prix d'Autriche. Mercedes qui rechute, Alpine qui patine sur ce Grand Prix. On commence par Mercedes, si tu veux, Stéphane, avec l'arrivée des évolutions qui avait été quand même assez remarquable, hein, la fin de ces pontons particuliers sur la W13, devenue W14 oui. Désormais cette saison à Monaco, qui avait coïncidé avec de meilleurs résultats pour l'équipe Mercedes, et puis notamment avec ce podium de Lewis Hamilton au Canada lors du Grand Prix précédent. Et là, les monoplaces à l'étoile, finalement, ont été quasiment invisibles pendant ce Grand Prix. Ça a grogné du côté de Lewis Hamilton, à tel point c'est que même c'est Toto Wolff qui a pris le micro en disant Lewis, ça suffit.
Oui, alors il a dédramatisé quand même Wolff, il a bien compris que c'était une somme de frustration. Il l'a même dit à la radio quand même, c'est assez incroyable. Il a été entendu de tout le monde, il a dit on sait que la voiture est mauvaise. Il dit ta Mercedes est mauvaise. Ah ouais. C'est le message que s'envoie, c'est quand même une contre-publicité, mais il faut ça pour le calmer. Parce qu'il est sorti de sa course, parce qu'il est obsédé par ce qui se passe devant. Est-ce que ceux
par les pénalités
vont avoir des pénalités, etc. Et là, c'est vrai que c'est pas bon pour la sérénité. Alors, moi, tu vois, je suis contre les communications radio. Si les pilotes n'avaient pas toutes ces choses-là, bah, ils se concentreraient sur leur course. Mais effectivement, il a fait beaucoup de sorties, y compris en Q1 de la qualification de la course sprint.
Ouais, sur le shootout.
Voilà, sur le shootout samedi. Limite de piste, on a vite compris que ça serait le thème du dimanche aussi. Et il a été en difficulté, la voiture ne tourne pas, tout simplement. C'était assez incroyable. Alors, rétrospectivement, globalement, hein, d'ailleurs, Verstappen l'a dit, moi je lis les articles, qu'est-ce que je rigole. Les trois principales écuries concurrentes de Red Bull avaient clamé ces dernières semaines qu'elles allaient rattraper, combler l'écart avec l'écurie autrichienne. C'est pas du tout le cas. Et Mercedes était persuadé qu'il serait beaucoup mieux à Spielberg qu'il ne l'avait été au Canada, et ce qui avait déjà été un Grand Prix remarquable.
Exactement. Alors, c'est vraiment finalement peut-être l'information la plus importante de ce week-end en Autriche. C'est pas tant les difficultés de Mercedes, c'est la déclaration de Toto Wolff. On ne s'attendait pas à être aussi lent. Autrement dit, la voiture avait progressé. On nous avait dit notamment qu'elle devenait beaucoup plus prévisible pour les pilotes et aussi pour l'ingénierie autour. Et bien là, on est reparti dans un de ces énormes défauts qu'avait sa devancière, c'est-à-dire de ne pas savoir du tout à quoi s'attendre. Et après course, Lewis Hamilton expliquait qu'ils ont compris très très vite qu'ils n'arriveraient pas à stabiliser le train arrière de la Mercedes. Et finalement, la seule solution qu'ils avaient pour garder un semblant d'équilibre, ceux qui font un tout petit peu de compétition comprendront, c'est puisque le train arrière est instable, il faut dégrader l'avant pour garder un équilibre de la voiture. Donc on a enlevé de l'appui sur le train avant.
Donc pas de grip dans les virages rapides.
Et ça, c'est donc ce qu'a dit absolument pas marché.
André Chauvelin, le chef ingénieur.
C'est ça, et ils ont été obligés de rajouter de l'appui à chaque passage au stand sur le train avant. Bref, la voiture, non seulement elle était instable, mais en plus, elle n'a pas cessé de changer dans sa configuration technique. Pour les pilotes, ça devait être un vrai casse-tête.
Ce que je vois quand même, c'est que c'est Lewis Hamilton maintenant qui tient la baraque. Ça fait 4 fois de suite qu'il bat Russell en qualification, qui fait un bon Grand Prix derrière. Enfin, ça, là, c'était de la survie, hein. Clairement, après, ils ont échangé leur position 7 et 8 au jeu des pénalités. Mais il est là, et je dirais heureusement qu'il est là, parce que du côté des ingénieurs, on a dit que Russell n'était pas du tout à l'aise avec la voiture, qu'il ne la sentait pas, qu'il ne pouvait pas attaquer. C'est un vrai problème. Il le vit moins bien que Lewis, où il s'en accommode moins bien que Lewis Hamilton,
ah oui,
de cette voiture.
Mais il faut se souvenir aussi comment ça s'est terminé pour George Russell au Canada. Hein. Ça s'est terminé avec fracas dans un mur. Donc forcément, vous n'êtes pas en confiance et vous vous retrouvez avec une voiture qui, d'un seul coup, redevient illisible. Donc on peut comprendre que le jeune Britannique ait été en difficulté. Et attends, on va à Silverstone.
Alors,
Lewis Hamilton, George Russell, ils vont être attendus.
Il faut mettre des pièces sur la voiture maintenant. C'est encore ce qu'a constaté le chef ingénieur d'exploitation, responsable des réglages, en fait. D'ailleurs, Lewis Hamilton a dit on n'avait qu'une session d'entraînement vendredi pour régler la voiture. C'était insuffisant. Et ils sont partis sur des mauvais réglages tout le week-end.
Ouais. C'est vraiment le scénario catastrophe.
Je trouve que c'est un mauvais... C'est un format qui est mal calibré parce qu'une heure, franchement, c'est pas assez. Il faudrait passer à une heure et demie quand même. Ça permettrait aux gens d'un peu plus travailler. Parce que là, ça, on le paye au prix fort. Et dans ce format-là, en fait, ce sont les meilleurs qui sont confortés. Donc, on voudrait un petit peu redistribuer les cartes comme ça avec des formats différents. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on avantage les meilleurs. Alors, on est dans une méritocratie, mais on voudrait du suspense. Il y en a encore moins. Et ceux qui pourraient se rapprocher, ben, en fait, s'éloignent.
Ah, ils se prennent les pieds dans le tapis, là, en l'occurrence. Ouais.
Bon, voilà. Donc, c'est tout. Mais on a dit quand même, on est assez inquiet du niveau de Ferrari.
Et c'est bah, tu vois, on voilà. a noté la même chose, Stéphane, Andrew Chauvelin, hein, qui a admis une inquiétude vis-à-vis du rythme déployé par les Ferrari en course. On est en train de sentir que le vent est peut-être en train de tourner chez Mercedes, parce qu'il y avait Aston Martin et maintenant il y a un deuxième chewing-gum qui va se coller au basque des Mercedes. Ce sont les deux Ferrari, donc inquiétude pour Mercedes avant ce Grand Prix de Grande-Bretagne où évidemment les deux pilotes seront attendus de pied ferme. Autre équipe qui va arriver pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone un petit peu sur les talons, c'est l'équipe Alpine qui avait débuté la semaine menant au Grand Prix d'Autriche par une annonce, on va dire, plutôt financière, hein, avec l'arrivée de nouveaux actionnaires qui apportaient une enveloppe de 200 millions. Oui, alors en face des 200 millions, j'ai envie de mettre les 12 points marqués sur les trois dernières courses par l'équipe de Laurent Rossi. J'ai le sentiment, Stéphane, c'est un peu dur hein, ce que je veux dire, mais j'ai le sentiment que cette équipe, elle n'en finit pas de se construire.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on nous explique, même depuis le retour de Renault, où bon, ils avaient repris une écurie Lotus qui était un peu en friche techniquement au niveau des investissements. Un petit peu comme l'est aujourd'hui Williams, hein, qui a... Bon, mais quand tu n'investis pas, tu prends du retard. Mais là, maintenant, on est dans... l'ordre normal des choses, le recrutement. On nous dit encore qu'il faut recruter, mais c'est ce que font toutes les autres écuries. C'est la vie normale d'une écurie. Donc, il n'y a rien à chercher d'extraordinaire de ce côté-là. Alors, tu cites les 12 points récemment marqués par Alpine, le petit pécule. J'en vois 47 marqués depuis le début de l'année.
Au total,
ce n'est pas un total extraordinaire. C'est 10 de moins que l'année dernière, à la même époque, après 9 Grands Prix, sachant qu'en 2020, Renault en avait rentré 83 quand même, et que Alpine, dans sa première saison, on avait marqué 32. On nous expliquait qu'on redémarrait vraiment et que ça allait monter en puissance.
Et c'était le début, le fameux début de Elplan avec ses 100 Grands Prix pour devenir champion du monde. Le temps passe et finalement, on voit pas grand-chose de très convaincant. Il y a eu ce podium à Monaco, mais Monaco, est-ce que c'est vraiment représentatif de la performance d'une voiture? Clairement non. Et d'ailleurs, la déclaration de Otmar Szafnauer, hein, le patron de l'équipe Alpine F1, ce résultat met en évidence nos lacunes, notamment notre capacité à nous battre le jour de la course avec nos plus proches rivaux la semaine prochaine, autrement dit pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Nous aurons une évolution sur la voiture à Silverstone. On a hâte d'ajouter davantage de performances lors des épreuves à venir.
Ouais. J'ajoute la déclaration de Gasly. McLaren a été rapide ce week-end. Ce n'est pas bon signe pour nous. Mm-hmm. Voilà, donc c'est clair, on le sait bien. On vise autre chose normalement que des 9e et des 10e places. Et là-dessus... Oui, effectivement, moi j'attends encore Pierre Gasly. Et on est toujours dans un entre-deux. Quand il sort de la voiture, quand il livre ses impressions, j'ai toujours encore un peu l'impression de voir le Pierre Gasly d'AlphaTauri. Où la voiture manque encore d'équilibre, il faut des nouvelles pièces, il faut analyser en profondeur ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis le doigt, en fait, sur la compréhension précise de cette voiture qui ferait faire un bond en avant. Comme l'a fait Aston Martin. Alors, c'était du design aussi. Après, on a livré clé en main une voiture qui peut faire un podium pour Alonso, ça c'est certain. Mais on devrait se rapprocher un petit peu plus. Ils ont l'ambition d'aller chercher Mercedes. Ben, il faut y aller, surtout que Mercedes, c'est pas très bien quand même. Et là, on dit que, encore, c'est je cite le pilote français, on est à 2-3 dixièmes d'Alonso et de la Mercedes. Il faut les combler, il faut aller les chercher. C'est quand même assez difficile. Et moi, personnellement, j'attends un petit peu aussi un super week-end de Gasly que je n'ai pas encore vu à Spielberg, qui était quand même le huitième week-end avec une course sprint pour le Rouennais. et toujours 100 points.
Ouais, ça, c'est juste incroyable. C'est un exercice qui lui convient pas, c'est clair.
Tout à fait. C'est-à-dire que là, depuis 2021, c'est chou blanc à chaque fois. Alors 2021-2022, ça préparait, ça conditionnait aussi la course du dimanche. Et il avait marqué peu de points. Il avait marqué 6 points, je crois, c'était au Brésil en 2021. Il en a mis simplement un à Spielberg. Bon, ben, ça fait 7 points marqués le dimanche de course de week-end de sprint. Il faut maîtriser ça aussi un petit peu plus, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être fort le vendredi, le samedi, le dimanche. C'est-à-dire qu'il faut être au taquet tout de suite. Et là, c'est toujours pareil. Alpine se cherche un petit peu. Ils ont besoin de temps. Ils sont capables de réagir samedi matin ou juste avant la qualif. Mais là, c'était déjà trop tard. C'était très, trop tard.
Ah, c'est week-end sprint. Clairement, dès que vous êtes en difficulté, on l'a vu pour Mercedes, ça vous laisse pas du tout le temps de vous retourner. Et pour en revenir à ça, je trouve que, tu vois, Aston Martin, ils étaient quand même dans la discrétion hein, cette semaine-là. On les a pas beaucoup vus, mais quelque part, ils l'annoncent chez Aston Martin, ce qui est très, très étonnant. Ils savent clairement, et je trouve même de manière vraiment surprenante, à l'avance, ouais. Où est-ce qu'ils vont être dans le coup et où est-ce qu'ils vont pas du tout l'être. Là, Fernando Alonso, il avait dit non, mais l'Autriche, ça va être compliqué. Bon, bah, au final, quand tu le sais, bah, tu fais un peu le dos rond. Alors, samedi, il a fait la course sprint, Fernando Alonso, en zigzagant derrière Lance Stroll. Moi, j'avais l'impression de voir un convoi lors d'un mariage, c'est-à-dire que Lance Stroll, il était à fond la caisse devant et Fernando Alonso, il était derrière en train d'envoyer des cotillons et puis de balancer du riz. Enfin, je sais pas, c'était incroyable. Et il aurait pu passer 12 fois en marche arrière en faisant de moonwalk. Non, il est resté derrière le fils du patron. Et puis donc, dimanche, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais pour en revenir à Aston Martin, ils savent où ils vont, finalement. Oui. Et on a le sentiment, là, que... alors, Mercedes, dans une moindre mesure, et que Alpine, souvent, découvre un petit peu ce qui se passe au moment de mettre la voiture sur la piste. Et il y a peut-être un travail à faire aussi en termes de corrélation entre ce que les simulations disent. On sait que maintenant, ça passe par là. Et ensuite, ce qu'on retrouve sur la voiture. J'ai l'impression que c'est vraiment un des points où il faut beaucoup travailler du côté du constructeur français.
Et on fait le lien assez facilement entre Gasly et Alonso, parce que Gasly est le successeur d'Alonso chez Alpine. Et on attend aussi un input, quelque chose de très, très fort.
Qui puisse donner la direction à l'équipe.
Oui, tout à fait. Alors, Gasly, il a eu... Un début un petit peu compliqué. En tous les cas, il y a une phase de découverte de l'équipe. Et là, depuis quelques Grands Prix, quand même, il est au niveau strictement d'Ocon. Je vois en qualif, le duel, c'est 5-4 pour Ocon en qualif. Donc, il tient bien. Et c'est 4-3 sur les 7 derniers Grands Prix pour Gasly. Donc, il est là, ça y est. Mais simplement, à chaque fois, c'est pour rentrer ric-rac en Q3. Et on devrait déjà placer les deux voitures en Q3 pour espérer faire autre chose que marquer un ou deux points, jouer au gratte-points. C'est un peu le problème. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi un souci que ces pilotes soient aussi semblables? Là aussi, c'est la question. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Un pilote qui a un autre profil ou en tous les cas qui a un background un peu plus important, de toute façon on pense encore un peu à Alonso hein, là-dessus, pour aiguiller, pour faire des contre-propositions, parce qu'on ça va un petit peu toujours dans le même sens. C'est blanc bonnet et bonnet blanc, ils sont assez proches l'un de l'autre, mais il n'y en a pas un qui pousse à l'émulation. Ils se battent tous les deux, mais c'est pas suffisant parce que quelque part ils ne dépasse pas les limites de la voiture.
Ça c'est bien résumé.
Ils ne surperforment pas. Ils sont dans la performance, il n'y a pas de problème, mais ils ne sont pas dans le 101 ou 102%. Ils sont 100% déjà, c'est bien, mais c'est un peu difficile. Alors, ils ont fait beaucoup de dépassements de limites aussi parce que la voiture a été compliquée.
Voilà. Ah oui, mais c'est ça. Ils sont, de toute façon, tu les vois, ils sont au combat avec cette auto du premier au dernier tour. En général, quand on dit ça, le week-end suivant, on a un podium, un résultat assez exceptionnel. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, mais on s'impatiente un peu parce qu'on a envie de revivre quand même des grands moments. Là, on a deux vainqueurs de Grand Prix et j'avoue que j'aimerais bien en revivre un cette saison. Et puis, il y a la menace, pour terminer, il y a la menace McLaren. Je disais 12 points de marqués par Alpine sur les 3 derniers Grands Prix. Bah, 12 points, c'est précisément ce qu'a marqué Lando Norris avec cette version évoluée de la McLaren. Je pense qu'on s'attardera sur le cas de la McLaren dans le prochain numéro des Fous du Volant. Mais ça y est, la menace, elle est là maintenant. C'est plus du tout une menace fantôme. Elle s'appelle Lando Norris, elle s'appelle McLaren. Il doit y avoir 18 points de retard pour McLaren sur Alpine.
18 points, ça va pas peser lourd, hein.
Non, surtout que Piastri n'a pas encore trouvé exactement ses marques, je pense, chez McLaren. Il est encore un petit peu derrière. La preuve, c'est qu'en plus, on avance la sortie des nouvelles pièces pour Lando Norris. On fait un effort pour ça et on laisse Piastri apprendre encore avec, rouler avec l'ancien package. Il va l'avoir à Silverstone, ça sera super utile dans ses enchaînements quand même assez rapides et rythmés. Donc si lui aussi devient performant, alors là ça va devenir très compliqué. Là ils sont à 2-1 pour l'instant chez Alpine. Il faut en profiter, mais il faudrait mettre le plus possible de points en banque parce que là McLaren va monter en puissance.
Bah, je crois qu'on a tout dit de ce Grand Prix. On aurait eu plein d'autres choses à dire, mais je crois qu'on a dit l'essentiel sur ce Grand Prix d'Autriche. Et ça va s'enchaîner vite maintenant, puisqu'on va prendre la direction de Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Je vous donne rapidement les horaires si je les retrouve. Première séance d'essai libre vendredi à partir de 13h30. La deuxième sera à 17h. Samedi, la troisième séance d'essai libre. C'est un week-end classique, hein. Là, on a trois séances d'essai libre. La séance de samedi, donc c'est 12h30. La qualification à partir de 16h. Et le Grand Prix sera évidemment donné dimanche à 16h. On a hâte. Parce que là, il y a plein de choses à confirmer, à corriger. On voit plein de choses frémir. Puis là, il y a cet enchaînement quand même assez incroyable, hein, Silverstone. Après, il y aura la Hongrie, la Belgique. Et on s'arrêtera là avant de partir en vacances pendant l'été.
Objectif pour Red Bull, égaler les 11 victoires consécutives de McLaren lors de la saison 88. Ils ont tout pour y parvenir et on va voir spécialement aussi ce qu'est capable de faire Sergio Pérez, qui est à la dérive depuis quelques Grands Prix quand même, qui est officiellement pas sur la sellette parce qu'il n'y a personne d'autre de toute façon pour le remplacer, mais il serait de bon ton qu'il se réveille un petit peu aussi.
Bah, il a fait un beau Grand Prix dimanche.
Oui, tout à fait, mais moi je trouve aussi qu'il donne la position de Ferrari Dans le classement, parce que s'il termine deuxième, ça veut dire que Ferrari réellement est encore, encore du travail à faire. Et l'objectif pour Ferrari, c'est déjà de battre Sergio Pérez à la régulière. Ça, c'est déjà un bon indicateur.
Bon, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro des Fous du Volant. N'hésitez pas, on vous le disait, hein, à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière-là, eh bien, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On va vivre ce week-end du côté de la Grande-Bretagne avec beaucoup d'intérêt. Et puis d'ici là, Stéphane,
on coupe le contact.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.